Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais vous présenter les trois joyaux et l'entrée en refuge. C'est le dernier des neuf thèmes qui constituent une introduction générale à l'enseignement du Bouddha. Et notre propos est de faire cette présentation dans une perspective humaniste. C'est-à-dire dans une présentation fondée sur les valeurs humaines universel. L'humanisme intégral, si l'on veut, tel que nous l'entendons, est ce qui développe, cultive, promeut, transmet les valeurs humaines universelles. Universelles et naturelles. Entendu que ce qui est naturel est universel. Et il n'y a d'universel que ce qui est naturel. C'est un premier point. Nous aurons tout à l'heure une occasion d'échanger et si vous avez des remarques ou des interrogations, il est bien que nous puissions en parler. Donc, une présentation des trois joyaux et de l'entrée en refuge dans une perspective humaniste, universelle, naturelle. En fait, ça n'est rien de particulier ni rien de nouveau. Nous étions un certain nombre, il y a quelque temps, à Bruxelles, puis à Strasbourg, auprès de Kundun, le Dalai Lama, qui mettait en tant que prix Nobel de la paix, l'accent sur l'importance de ces valeurs humaines universelles. Valeurs humaines universelles pouvant être une façon de dire les ethics and les spirituality. Une éthique séculière, une éthique non confessionnelle et pareillement une approche spirituelle non confessionnelle naturelle. Parler de laïcité, sainte spiritualité, ou si on traduisait en français une éthique et une spiritualité laïque, c'est assez lourd en français. C'est bien. Mais chacun le sait, en notre pays, la laïcité est un débat important, mais souvent très chargé. C'est pourquoi il est plus large et sans doute mieux, tout en restant dans le même état d'esprit, de parler des valeurs humaines universelles, qui ne sont pas culturelles, qui ne sont pas confessionnelles, qui sont naturelles. Et au fond, l'enseignement du Bouddha transmet ces valeurs humaines, naturelles et universelles, fondamentales. D'une façon qui n'est pas réductrice ou amoindrie par rapport à quelque perspective ou vision que ce soit, et même qui transcende les particularités culturelles et linguistiques et confessionnelles de perspectives particulières dans son universalité naturelle. Dans cette courte introduction pour aussi dire qu'il est difficile de parler au départ des trois joyaux et de l'entrée en refuge dans cette perspective. Pourquoi ? Parce que pour les bouddhistes que nous sommes, les trois joyaux sont une particularité et une inspiration, une guidance. Et l'entrée en refuge est aussi un geste spirituel qui marque le rattachement et l'adhésion à cette aspiration et à cette guidance. Et c'est précisément le propos précisément que je voudrais aborder, et que ce dont il s'agit n'est pas un phénomène religieux au sens occidental monothéiste, mais est un geste ou une attitude spirituelle d'ouverture, d'inspiration, qui a une qui est fondamentalement universelle. Donc, on pourrait, d'une certaine façon, utiliser une formule en disant en l'inspiration et la guidance des trois joyaux, que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. C'est une formule très simple, très courte. En l'inspiration et la guidance des trois joyaux, que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. Cette motivation et cette aspiration, le geste du cœur et de l'esprit. La question maintenant est, lorsque l'on dit trois joyaux, de quoi parlons-nous? Et lorsque l'on parle de s'éveiller aussi, de quoi parlons-nous? Alors, tout pratiquant, tout bouddhiste, mais nous, personnellement, je n'aime pas beaucoup l'expression bouddhisme. Ça n'est pas que je n'aime pas les bouddhistes, mais bouddhisme est un néologisme qui a été forgé par des indianistes, bouddhologues, sorbonnards, dans les années 1825. Le bouddhisme est né à cette époque, 1825. On pourrait, dans quelques années, célébrer le bicentenaire. Donc c'est très récent et c'est un phénomène culturel, linguistique, ici français, qui a fait école, qui s'est diffusé. Mais pourquoi avons-nous des résistances par rapport à bouddhisme? C'est une résistance eu égard aux ismes. Et en notre langue, les ismes sont une terminaison qui caractérise, on pourrait dire, les idéologies. Il y a le marxisme, le christianisme, le judaïsme, le communisme, le sarkozisme, le hollandisme, soyons... Mais l'isme, on pourrait continuer, il y a beaucoup d'ismes, mais la caractéristique des ismes est de véhiculer un courant de pensée et souvent très fort, une idéologie religieuse ou politique. Et c'est précisément ce que n'est pas l'enseignement du Bouddha. Donc, pour ça que nous préférons dire tout simplement l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha a transmis un enseignement, Socrate ou d'autres ont transmis un enseignement. Et cet enseignement du Bouddha est une voie du milieu, Madhyamaka en sanskrit. Et l'on entend ici par voie du milieu une approche une voie qui ne prend pas appui sur les extrêmes, ni sur un extrême, ni sur un autre. Et ça n'est pas une voie normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comme dit Nagarjuna, le fondateur du Madhyamaka, le sage ne prend appui ni sur les extrêmes, ni sur le milieu. L'enseignement du Bouddha, sa voie du milieu, est une voie du non-appui. Du non-appui conceptuel. Qu'est-ce que le non-appui conceptuel ? C'est de ne pas reposer sur des concepts. Ne pas rester posé, fixé sur des concepts, dans l'adhésion à des concepts comme étant quelque chose de définitif. Les concepts sont nécessaires et dans l'instant nous parlons avec des concepts français et c'est très bien. Les concepts sont nécessaires, ils sont utiles, ils sont précieux, ils sont indispensables, mais ils sont toujours relatifs. Et le Bouddha nous a enseigné cette relativité des concepts et la dangerosité qu'il y a à oublier cette relativité et d'une façon ou d'une autre à absolutiser des concepts. L'absolutisation conceptuelle est ce que l'on nomme l'idolâtrie. L'idolâtrie conceptuelle. Very dangerous. Il n'y a qu'à lire l'actualité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement craintifs, timorés et réservés lorsqu'il s'agit d'isme. Et nous éviterons d'aller jusqu'au bout des ismes, jusqu'au bouddhisme. Donc, l'enseignement du Bouddha se nomme en sanskrit dharma. Dharma a le sens de réalité. C'est un enseignement réaliste qui nous enseigne l'illusion pour nous permettre de réaliser la réalité, de ne pas être trompé par l'illusion et nous libérant des tromperies de l'illusion. Les éléphants, ça trompe. De réaliser ce qui est tel que c'est. De réaliser ce qui est, ce que je suis, ce que je suis, ce que je vis. Donc, Et ceux qui, celles, ceux qui sont motivés par cette quête, cette quête, finalement, la quête du sens de la vie, la quête humaine fondamentale, bah, cette aventure, cette recherche, sont nommés Sangha, en sanskrit toujours. Ce qui a le sens, disons, de communauté, de cheminants, de pratiquants, de quêteurs, de chercheurs. Et donc, Bouddha, Dharma, Sangha sont les trois dimensions, les trois volets de ce cheminement ou de cet entraînement dans et vers les valeurs humaines universelles, vers la nature universelle. Petite pause. On a des cloches ici pour faire des pauses. Quand il y a une cloche, une petite pause. Un moment de suspension. Ce que je voudrais maintenant vous présenter est que ces trois joyaux sont un prototype de la transmission. Non, joyaux, tout simplement parce que précieux. Et développer les valeurs humaines universelles, réaliser sa nature, la nature, très précieux. Précieux car un moyen de se libérer des illusions et des passions douloureuses et de réaliser ce qui est bon pour soi et pour les autres. Que demander de plus ? Donc, joyeux car précieux, tout simplement. Et ce que l'on nomme Bouddha est une personne qu'on a nommé l'éveillé, qui s'est éveillé à la réalité, que l'on a nommé le grand médecin, celui dont l'enseignement et la pratique guérit de la maladie, des illusions et des passions. Il a proposé une sorte de thérapie fondamentale, dans une pratique, une transformation de soi, une libération des illusions. Des illusions que l'on construit ou qui se fabriquent dans notre esprit ou dans notre cognition, dans notre façon de connaître. L'enseignement du Bouddha, le Dharma, est, en termes contemporains, ce que l'on pourrait dire une phénoménologie, c'est-à-dire une connaissance des phénomènes, c'est-à-dire de tout, ce qui, tout est phénomène, tout ce que l'on expérimente dans tous les sens sont des phénomènes. Mais comment l'on connaît, comment l'on expérimente, et comprenant ainsi comment l'on vit, l'on expérimente, il est possible de dénouer, défaire toutes sortes d'illusions qui amènent des comportements conflictuels et passionnels. Donc, cette thérapie essentielle nous amène à la santé et guérit de la maladie. La maladie de la saisie, la maladie de l'appropriation, la maladie de l'avidité, la maladie de aussi bien de la saisie conceptuelle que de la saisie passionnelle. Cela est peut-être difficile comme ça, mais le cœur de la maladie est dans cette attitude cognitive que l'on nomme d'abord la saisie duelle et qui secondairement devient la saisie passionnelle. Bouddha, Dharma, Sangha, ou mieux, d'une façon très simple, les trois joyaux, sont le plus profondément les trois dimensions de notre nature. Les trois dimensions de la nature de notre esprit, les trois dimensions de notre nature pure, de nos corps, parole, esprit, libres de passion et d'illusion. Et cette nature pure ou mieux éveillée, lorsque l'on parle d'éveil, c'est dans un sens métaphorique, en relation au rêve. L'illusion est comme le rêve. Et s'éveiller, c'est comme sortir d'un rêve. Des illusions d'un rêve. Ou de rêves successifs. Ces rêves successifs étant les différents états de conscience dans lesquels on vit et passe. C'est une analogie. Les trois joyaux sont à la fois les trois dimensions de notre nature, comprises comme on résume cela en disant une ouverture absolue, une claire lumière en soi et des qualités de bonne qualité éveillées illimitées. Et cette nature saine, positive, notre nature, se transmet au moyen des trois joyaux, avec l'éveil qui est en quelque sorte la destination, avec une voie, l'enseignement, et des cheminants, des pratiquants, qui sont ce que tout à l'heure nous avons nommé Sangha. Donc, cela pourrait se développer beaucoup, mais ayant esquissé ainsi les trois joyaux, entrer en refuge, deuxième volet pour ce soir, a le sens d'entrer dans la voie, d'entrer dans la pratique, de commencer à suivre l'enseignement libérateur. C'est tout, c'est cette entrée, ce commencement. Entre parenthèses, ça n'est pas comme un baptême, une conversion ou l'entrée dans un club, ou je ne sais. Entrer en refuge et entrer dans la pratique. Et il y a, pour ce faire, la nécessité d'une inspiration, d'une compréhension, d'une certaine confiance. La pratique pourrait être mise en relation ou présentée comme une approche scientifique, une démarche expérimentale. On fait une expérience, si elle est concluante, on approfondit, si elle n'est pas concluante, on arrête. Mais pour faire une expérience, il faut d'abord avoir une certaine vision, où on ne tente une expérience que si l'on intuitionne la possibilité d'un intérêt ou de que quelque chose puisse être bon, puisse être valable dans cette direction. Il faut qu'il y ait cette intuition. Et entrer en refuge a le sens de faire une première expérience. Et si elle est concluante, on approfondit pas à pas, step by step, étape par étape. Et pourquoi dit-on refuge ? Refuge, car... Alors, qu'est-ce qu'un refuge ? En français, dans les Alpes, on connaît les refuges de montagne. Sur le bord de l'autoroute, il y a des refuges. Un refuge est un endroit où l'on peut se réfugier quand ça va mal. En Europe, aujourd'hui, il y a des réfugiés. L'Europe est un refuge. Un refuge est un endroit où l'on peut aller et trouver une sécurité ou une protection par rapport à des dangers. Je pense que cette définition ne pose pas de problème. Et nous avons tous, dans notre vie, dans notre existence, des questions, des difficultés, des problèmes. Et plutôt que de les occulter, plutôt que de les refouler, de les mettre sous le tapis, il est important pour pouvoir les traiter, s'en libérer, d'avoir le courage de les voir, de les examiner, de les considérer, de travailler avec. C'est l'aventure de la vie demande un courage. Alors c'est une vieille histoire mythique, une quête. Nous sommes ici en Avalon, donc Arthur et ses chevaliers sont des familiers. La version de cette quête arthurienne du Graal, qui a son équivalent oriental, mais est une expression de cette aventure de la vie et de cette quête essentielle, qui demande du courage, de la détermination, de la non-peur. Et le refuge est le lieu où la direction où l'on peut trouver cette non-peur. Et c'est l'inspiration et aussi une protection et aussi une guidance. Qui amène la non-peur, qui amène ce courage. Le cœur de la pratique est dans l'ouverture. L'ouverture de l'esprit, l'ouverture du cœur. Mais s'ouvrir, peut sembler risqué. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas protectionnistes. Il y a un risque où s'ouvrir demande un courage, demande une non-peur. On découvre que c'est bon, on découvre que c'est possible, on en découvre les qualités, mais il faut pouvoir dépasser la peur. Et c'est pourquoi cette notion de refuge est, dans son inspiration, sa guidance, une protection et une inspiration à l'ouverture. Donc, voilà le sens du refuge, qui est l'entrée dans la voie, dans ce geste de non-peur qui consiste à faire un premier pas dans l'ouvert. aussi peut-être pour les anciens pratiquants, dire qu'il y a quatre niveaux d'entrée en refuge. Le premier niveau est celui que nous venons de décrire, lorsque l'on commence une pratique de l'enseignement du Bouddha. Mais même d'une façon générale, ça n'est pas le Bouddha en tant que personne ou personnage historique. Tout ce qui est bien dit est parole de Bouddha. Tout ce qui dit la réalité, tout ce qui pointe la réalité est parole de Bouddha. Donc il n'y a pas de monopole. Et l'entrée dans la pratique est la première forme d'entrée en refuge de fait. L'entrée en refuge de fait. Ensuite, il existe une pratique particulière qui exprime ce dont il s'agit dans tout un contexte, une théâtralisation avec un rituel qui est l'entrée en refuge, l'expression de l'entrée en refuge formelle. Qui d'ailleurs, en général, ne se pratique pas dans les pays où l'enseignement du Bouddha est diffusé, dans la mesure où ceux dont c'est le cas sont nés dedans, en quelque sorte. Le troisième niveau de l'entrée en refuge est dans la pratique. Lorsque l'on accomplit une pratique, en préliminaire à celle-ci, on se tourne, il y a une orientation en laquelle on se tourne vers l'éveil et une motivation pour le bien de tous les vivants, comme dans cette formule que je vous disais tout à l'heure, en l'inspiration et la guidance des trois joyaux, que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. Donc, on pose cette pensée positive, cette aspiration positive, cette motivation altruiste comme initialisation, comme induction initiale de la pratique. C'est la troisième façon de faire. Et la quatrième façon d'entrer en refuge, qui est l'ultime, est lorsque l'on est véritablement entré en la nature ultime de l'esprit, qui est, je vous le disais tout à l'heure, la source, la nature ultime de la réalité, la nature ultime du corps-esprit, réalité. Et c'est l'ultime refuge. L'ultime, c'est l'entrée dans l'absolu transcendant les notions habituelles de temps et d'espace. Voilà pour cette présentation, et je préférerais à ce point que nous continuions par un échange. C'est donc avec plaisir que je vous passe la parole et le micro. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Alors, on peut faire tourner le micro, et puis à un moment je dis stop, et puis la personne qui a le micro à ce moment-là parle. C'est très amusant, c'est très bien. Monsieur ?
Si on considère que justement, on ne pourra pas aller dans les 10.
Merci. Merci. Si on considère donc pour ne pas aller dans les ismes que finalement le Bouddha s'exprime par la voie du Dharma, finalement pourquoi le Bouddha en lui-même constitue un joyau? Pourquoi on n'est pas que sur deux joyaux, le Dharma et la Sangha?
Le Bouddha, l'éveillé, est un joyau au sens où il est à l'origine de l'enseignement. Il a découvert cette réalité, il a réalisé la réalité de la nature profonde de ce qui est, de l'esprit. Et ainsi, en tant que source, inspirateur, il est très précieux. C'est un joyau, un trésor. Alors, on dit joyau, on pourrait dire trésor. Les Japonais utilisent, ils ont des trésors vivants. On pourrait dire les trois précieux, les trois... Les précieux, ça fait un petit peu ridicule. sens de ce qui a de la valeur, de ce qui est rare et ce qui a de la valeur. Et donc c'est une façon d'exprimer la valeur qu'il y a dans cette inspiration et cette guidance, cette source d'enseignement. On peut le faire passer de main en main comme ça, et puis c'est l'occasion de le saisir.
Pour rebondir sur la précédente question, il pourrait aussi être rattaché à la Sangha et être le membre initiateur du Sangha.
Le Bouddha est l'initiateur du Sangha. Il est l'initiateur du Dharma. Et il est aussi le point de départ et la source. Les trois joyaux sont dans une continuité et procèdent l'un de l'autre. Le Bouddha est à la fois la source et la destination. L'enseignement est la voie, et ceux qui le parcourent sont les cheminants. Donc il y a une relation, une continuité, et il y a aussi une façon de comprendre les trois joyaux dans une simultanéité. Il y a une continuité des joyaux qui est la trame ou la tresse principale de la transmission et de son enseignement. Mais par rapport à cette question, le Bouddha, en tant que source et enseignant, tout simplement, est précieux. Voilà.
Ne pourrait-on dire que le Bouddha finalement est le symbole de l'éveil et que l'éveil est un joyau en soi?
Aussi. Et Bouddha est à la fois une personne et aussi un état d'éveil, un état de réalisation qui a un caractère éminemment précieux. Et le Bouddha personne est le porte-parole de cet état, et cette parole qu'il exprime, qui exprime la nature qu'il vit et son enseignement. Et c'est important de voir que Bouddha est à la fois un nom propre d'un personnage, une personne historique, il y a 25 siècles, qui est arrivé à une réalisation de la réalité, qui s'est éveillé au-delà des illusions habituelles dans lesquelles nous vivons, dans notre conscience habituelle. Et Bouddha est aussi le nom de l'état de Bouddha, c'est l'état d'éveil et de réalisation. Il y a ces deux dimensions. Et suivant les circonstances et les écoles d'ailleurs aussi, l'accent est plutôt mis sur le côté ou l'aspect de la personne historique ou sur le côté de l'état de l'expérience. Mais les deux sont sont inséparables. Bien. S'il vous plaît.
Bonsoir. C'est pour une question, pour savoir depuis quand est-ce qu'on entre en refuge, est-ce que ça a été instauré par le Bouddha lui-même, ou voilà, ou est-ce que c'est venu après, et quel est le mot sanskrit ou le mot tibétain pour exprimer refuge?
Kyapsudjoa en tibétain. Et ce qui signifie littéralement « aller en refuge ». Alors, on pourrait même dire « se réfugier ». Mais bon, tous les mots ont leur sentiment. Et ça a commencé avec le Bouddha lui-même, et ceux qui sont venus vers lui et qui lui ont demandé de les prendre comme disciples. C'était le geste en lequel s'établissait cette connexion et cette requête d'enseignement et l'expression de cette intention de cheminer dans cet enseignement. Et cela peut avoir pris différentes formes, différentes expressions au fil du temps, mais le geste d'entrer ou d'aller vers, de s'ouvrir à, est toujours le même. C'est d'entrer dans la transmission, entrer dans la voie, entrer dans l'apprentissage, entrer dans l'entraînement, entrer dans la pratique, on peut dire de différentes façons. Mais il y a toujours cette notion de commencement, ou même d'aller vers, ou de se tourner vers, ou de s'orienter. D'autres remarques, s'il vous plaît.
bonsoir. Par rapport à toutes les comportements et les stratégies de fermeture qu'on voit autour de nous au quotidien, voilà, nous qui modestement essayons d'être dans l'ouverture, quel geste, quelle attitude vous pouvez nous recommander, nous conseiller pour essayer de montrer à ceux qui sont fermés qu'on peut être peut-être différent. Ma question est naïve, mais en même temps assez générale.
D'entrer en refuge, c'est-à-dire d'entrer en non-peur. Et la non-peur permet de faire un geste. Toujours, on est dans... Est-ce que je devrais ou est-ce que je ne devrais pas ? On est dans l'hésitation, dans la retenue. Là. On peut faire un premier pas, une ouverture, un geste. Oser. C'était une expression de courage. Mais qui peut se faire justement avec une inspiration dans la non-peur et aussi avec une guidance. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais inspiration et guidance dans la non-peur. Et avec une confiance. La non-peur, c'est la confiance. La confiance en soi, la confiance que c'est possible, la confiance que ça vaut la peine. Confiance qui n'est pas du tout une confiance aveugle, ni sans discernement, et qui n'est pas la confiance en soi d'une attitude égotique, mais la confiance qui permet d'ouvrir son cœur, qui permet d'ouvrir son esprit, qui permet de s'ouvrir à soi-même, qui permet de s'ouvrir à l'autre, aux autres. Qu'est-ce qu'il y avait demandé encore la parole, s'il y avait une dernière remarque, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. J'aurais souhaité que on revienne sur l'entrée en refuge ultime. Et la question que je me posais, c'était le lien entre cette entrée en refuge ultime et un terme, alors qui est peut-être un peu compliqué, mais le dharmakaya.
L'entrée en refuge ultime est l'entrée en dharmakaya. Et voilà.
Merci.
Alors, si vous êtes tant soit peu sagace, vous direz, mais le dharmakaya, qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? Dharmakaya, c'est littéralement le corps de réalité. Le corps de la réalité absolue. C'est-à-dire simplement l'entrée en l'absolue réalité absolue est un terme difficile, qui est synonyme de non-dualité. L'absolu est ce qui ne dépend pas de quelque chose d'autre et ce qui est sans autre. Et il n'y a d'absolu que ce qui est non d'eux, car il n'y a qu'ainsi qu'il n'y a pas d'autre. Donc, absolu est aussi un synonyme d'omniprésent ou d'omniprésence. Ce qui est infus, diffus, en tout, partout, absolument partout, à l'intérieur, à l'extérieur, en l'esprit, et présent, omniprésent, tel qu'il n'y ait rien et nulle part où il ne soit, où ça ne soit. L'omniprésence est absolue. Et en omniprésence, il n'est pas de dualité. Donc, entrer dans cette nature ou cette réalité absolue ou omniprésente et ne pas être séparé de celle-ci est l'ultime refuge, l'ultime protection, l'ultime réalisation. Petite méditation.
Absolutely.